Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot.
Non, t'as répété exactement ce que tu venais de dire, c'est pas possible!
Les 400 coups. L'émission ciné des 400 coups.
De 17h30 à 18h.
Tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les 400 coups, l'émission radio des cinémas, les 400 coups. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers, sur le 103 FM. Nous sommes très heureux de vous retrouver.
Nous espérons que vous avez passé un certes pluvieux mais agréable mois de janvier et que vous avez pu profiter pleinement du festival Premier Plan qui, comme chaque année, a réchauffé et émerveillé nos âmes de cinéphiles.
Alors, au programme de cette émission, un retour sur l'année en cours des ambassadeurs du cinéma, un focus sur Un parfait inconnu, biopic intimiste sur Bob Dylan, réalisé par James Mangold et remarquable interprété par Timothée Chalamet. Et puis, nous avons eu la chance de découvrir en avant-première The Brutalist de Brady Corbet. On vous en parle.
Et pour finir, nous ferons le tour de l'actu avec nos événements à ne surtout pas manquer. Ça se passe en dernière partie d'émission. Vous êtes prêts? Les 400 coups, l'émission épisode 14. C'est parti.
Cela fait maintenant 10 saisons que l'association Cinéma Parlant et les 400 coups ont mis en place le dispositif des ambassadeurs du cinéma. Nos ambassadeurs se consacrent depuis 4 mois pleinement à leur mission. Mise en avant de nos événements, participation à des temps d'échange groupés et bien évidemment découverte de nombreux films à travers des avant-premières ou soirées spéciales.
Nous avons eu le plaisir d'interviewer Garance Lelarge qui est chargée d'animer le réseau depuis octobre. Elle nous parle de ses films coup de cœur ou encore des temps forts de cette saison. Extrait.
Salut Garance, bienvenue dans notre émission Les 400 coups, merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, comment se passe la vie d'ambassadeur du cinéma? Par exemple, quels sont les temps forts de cette année?
Pour l'instant, on vient de faire avec les ambassadeurs, donc Premier Plan, qui a été très sympa. Pas mal de personnes sont venues et ont vu pas mal de films. Puis là, ce soir, nous, on va voir Un parfait inconnu, le biopic sur Bob Dylan, qui avait l'air de pas mal les chauffer, donc on va voir ce que ça donne.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'aventure ambassadeur?
Faut pas avoir peur de s'engager parce qu'on n'est pas très cinéphile ou quoi. Justement, en fait, le but ici, c'est nous, on cherche des gens pour faire la communication en fait de l'art essai auprès des jeunes, donc de leur lycée ou de leur fac. Et c'est ça, le but, c'est pour commencer même eux à regarder pas mal de films ou quoi. Moi, je suis pas forcément cinéphile, mais après, moi, du coup, je suis pas ambassadrice, mais ça m'a, enfin, avec les ambassadeurs, je vais voir énormément de films et je vais voir des films très différents. Et c'est ça, en fait, aussi qu'on veut. Nous, on veut aussi une personne qui soit motivée, qui a envie d'être là, qui aime partager, qui aime parler avec les autres. Et c'est ça aussi le but, c'est de faire des connaissances avec plein d'autres personnes qui aiment le cinéma. Enfin voilà, mais il faut pas être la personne qui va voir un film tous les jours. Enfin, c'est pas forcément ça qu'on cherche aussi. Après, de toute façon, il y a une candidature, il y a une sélection. Donc, en plus, nous, on est aussi sur la motivation de la personne. C'est comme ça aussi qu'on va choisir un peu la personne. Si c'est quelqu'un qui va énormément au cinéma, mais qui a pas l'air très motivé, bah, on va pas forcément le prendre par rapport à une personne qui est hyper motivée, qui a envie d'être là, quoi.
Comme tu disais, vous allez voir, grâce à cette expérience, beaucoup de films. Notamment pendant les mercredis ciné, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Tous les mercredis soirs, on va voir un film avec les ambassadeurs. Donc moi, je l'ai choisi. J'essaie souvent de prendre un film où je me dis qu'il pourrait leur plaire ou qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'y aller. Et aussi un film où ils pourraient en fait leur ramener des amis à eux ou faire la com et dire aux gens de venir voir le mercredi ciné. Donc on a vu pas mal de films, très différents les uns des autres. En fait, c'est aussi un moment où les ambassadeurs peuvent se rencontrer, passer un bon moment ensemble, regarder un film. Ensuite, on partage un peu nos avis après le film. Puis voilà, on vient ou on vient pas, c'est comme on veut, mais voilà, souvent c'est un moment très sympa qu'on passe tous ensemble.
Est-ce que tu peux nous partager un coup de cœur ciné de cette année grâce aux ambassadeurs? Ça peut être un mercredi ciné ou un plan culte, peu importe.
Le film que j'ai dernièrement dans ma tête qui m'a un peu marqué, que j'ai beaucoup aimé, c'est In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Il y a eu une rétrospective il y a pas longtemps, du coup, au 400 coups, et il y a pas mal d'ambassadeurs qui m'avaient parlé de Wong Kar-wai que je connaissais pas du tout. Et j'ai pas eu l'occasion d'aller les voir, ces films, pendant la rétro. Et je me suis dit, bah attends, premier plan, il y a In the Mood for Love qui passe, on va y aller. Et hyper bonne découverte, moi qui adore les comédies romantiques. C'est un peu pas comme on a l'habitude de les voir et je trouvais ça hyper intéressant et voilà, c'était trop bien. Voilà, sinon, je suis pas sûre que j'aurais été allée le voir sans les ambassadeurs et voilà, c'est une bonne découverte.
Premier plan, justement, comment ça s'est passé avec les ambassadeurs? Quelles expériences vous avez faites? Est-ce que vous avez vu des films, j'imagine, avec des réals, etc.
Donc, moi j'ai à peu près passé la semaine à premier plan. Il y a des ambassadeurs, forcément, ils ont cours donc ils venaient que quand ils pouvaient ou quoi. Il y en a qui étaient vraiment là à fond, d'autres qui venaient que de temps en temps. mais chacun a un peu trouvé sa place et peut chercher ce qui aimait à premier plan. On a fait un mercredi ciné, du coup aussi là-bas. On est allé voir Kneecap, le film irlandais, qui était très sympa et qui a pas mal plu aux ambassadeurs. On a aussi fait la cérémonie de clôture, pas mal de petites choses comme ça, mais on s'est aussi retrouvé à quelques séances, enfin très sympa.
Pour finir, les prochains rendez-vous un petit peu phares des ambassadeurs qui vont arriver.
Eh bien, fin mars, va y avoir la fête du court-métrage, donc on va faire une projection aux 400 coups. Donc en fait, la fête du court, c'est pour projeter des courts-métrages. Et donc là, en fait, avec certains ambassadeurs, on choisit le programme qu'on veut diffuser, oui. Et ensuite, on va le mettre aux 400 coups et ça va être une séance ouverte à tout le monde que forcément, les ambassadeurs en fait, vont organiser, faire la com, tout ça. Donc c'est un des trucs qui va arriver prochainement. La fête du court-métrage organisée par les ambassadeurs.
Comment toi, tu vis cette aventure? Comment tu perçois l'aventure jusque-là? Est-ce que ça se passe bien?
Moi, j'aime énormément ce que je fais. Pour juste remettre dans le contexte, je viens moi de sortir de 2 ans de BTS audiovisuel et je savais pas trop ce que je voulais faire et donc je suis tombée sur cette offre de service civique qui me plaisait vachement bien. Et en fait, moi je trouve ça trop bien parce que je m'occupe de 45 lycéens et étudiants qui sont fans de cinéma et avec qui on passe des super moments, avec qui je peux discuter. Et en fait, c'est trop bien de faire ce genre de choses. Et même je fais la com, enfin je m'occupe de tout ça et juste c'est trop bien. En fait, c'est un peu un entre-deux entre les études et le travail et c'est vraiment le truc que je conseille aussi aux gens si ça pas trop quoi faire et qu'ils ont déjà envie de. Qu'ils ont une petite idée, qu'ils ont envie de commencer le travail, mais pas forcément. Je trouve que le service civique c'est trop bien et moi j'adore ce que je fais et je suis très déçue que ça dure que 8 mois. En même temps, je pense que c'est ce qui rend l'expérience aussi géniale, c'est que ça dure que 8 mois et donc c'est un shot de trucs cool qui arrivent et que justement si ça durait plus longtemps, peut-être que j'aurais pas ce truc là de me dire bon, c'est bientôt la fin, faut quand même que je profite aussi un max.
Et merci Garance d'avoir répondu à nos questions. De notre côté, on va suivre avec grand plaisir les aventures des ambassadeurs. Restez connectés, il y aura d'autres contenus à ce sujet dans notre émission. Merci Garance.
De rien, merci à vous.
Vous venez d'écouter Maggie's Farm de Bob Dylan, interprété par Timothée Chalamet dans le film Imparfait Inconnu de James Mangold.
Transition toute trouvée puisque le film est sur nos écrans depuis le 29 janvier et nous avons eu la chance de le voir.
À l'occasion de sa sortie, François Guillet, auteur de Bob Dylan, une biographie, Jérôme Ray, spécialiste de l'industrie du disque et co-auteur du livret du disque He Took Us By Storm, et Jean-Hugues Malnard, alias Casbah, dylanophile assumé, sont venus nous parler de Bob Dylan, bien sûr, de New York et du film Imparfait Inconnu lors d'une soirée ciné-rock extrait.
Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux et d'avoir répondu à la proposition. Donc je vois qu'il y a pas mal de musiciens dans la salle ce soir, il y a aussi des lycéens, on les entend quand même, c'est bien. Donc il y a un peu toutes les générations, ça tombe bien parce que on va vous parler pas trop du film parce que vous allez le découvrir, mais moi je vais commencer par vous... Je vais m'adresser aux gens, comme dit Dylan, je chante pour ceux qui sont au fond de la salle. Donc je vais m'adresser à ceux qui connaissent peut-être pas tout à fait Bob Dylan, qui connaissent peut-être plus Timothée Chalamet que Bob Dylan. Et donc c'est juste pour vous dire qu'il a 83 ans, il est toujours vivant bien évidemment, il continue à faire des concerts, il a sorti à peu près, il a sorti 39 albums studio, il y a une dizaine d'albums live, donc on est là au-dessus des 50 albums. Et il a eu le prix Nobel de littérature en 2016. En 2022, il a été ouvert à Tulsa dans le Minnesota puisqu'il vient de Duluth dans le Minnesota. Il a légué, Bob Dylan ne lègue pas, Bob Dylan vend. Il a vendu toutes ses archives à une fondation et ils ont ouvert un musée, ce qui sera le musée Dylan, qui est déjà opérationnel, donc, où sont stockés une vingtaine de semi-remorques avec tout ce qui est paroles, extraits de chansons, bandes-son, vidéos, tout ce qui existe sur Dylan est là-bas. C'est ouvert actuellement, alors faut aller aux États-Unis bien évidemment, mais c'est ouvert pour les chercheurs qui travaillent sur Dylan, puisqu'il y a des gens dans le monde entier qui est un peu comme nous tous, enfin nous notamment, sommes un peu, on va dire, un peu à fond là-dedans. Donc il y a possibilité là-bas, d'écouter, sous des conditions très strictes, d'écouter des chansons, de travailler sur des textes et ainsi de suite. Le film, lui, ça raconte pas tout ça, c'est pour ça que je vous en parle un tout petit peu en quelques chiffres comme ça. Moi, Dylan, je l'ai rencontré, je devais avoir 5 ou 6 ans. Enfin, quand je dis je l'ai rencontré, c'est à la fois vrai, c'est vrai. J'en ai entendu parler quand j'étais tout petit. Je l'ai découvert à la télévision française en 76 quand ils avaient diffusé un de ses concerts. Et puis depuis, ben voilà, c'est resté, c'est pas une religion, c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui a écrit plus de 600 chansons, qui a interprété des centaines de reprises, qui a touché un peu tous les genres musicaux, qui est un énorme fan de musique et un très très gros connaisseur. Il a présenté 102 émissions de radio au début des années 2000, qui sont disponibles en CD, dans lesquelles il faisait découvrir à tout le monde tout le patrimoine de la musique américaine, autour de thèmes, le whisky, les trains, c'est un espèce de jukebox vivant, voilà. Je vais laisser la parole, donc je vais vous présenter François et Jérôme. François, lui, il est l'auteur d'une biographie de Bob Dylan qu'il a là. Le gros avantage, c'est que cette biographie, elle va jusqu'aux dernières années, parce que souvent les livres sur Dylan, alors il y en a des milliers, hein. La biographie, elle va jusqu'aux années récentes, ce qui donne des éléments un peu nouveaux, parce que souvent on connaît surtout de Bob Dylan, en fait, la période que vous allez découvrir dans le film, qui est la plus référencée, la plus documentée, en sachant qu'après, il a un peu tout fermé, il s'est coupé du monde, il a mis une énorme distance entre lui et les gens, c'est quelqu'un on n'entend pas trop parler dans le monde normal, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, il reste très mystérieux, très secret. La période 62-65, il n'est pas encore complètement renfermé là-dedans, donc là, on est un peu plus documenté, et puis c'est une période foisonnante. Jérôme, qui lui aussi a eu l'avantage de travailler chez Sony Music pendant des années, notamment sur le back catalogue de Dylan, il a travaillé aussi sur Radio Nova, il me semble. Donc notre point commun, c'est que on est des fans, voilà. Enfin, je sais pas, c'est pas le mot que j'aime, mais bon. François, lui, il a aussi un site internet des textes de Dylan qui est très complet avec des traductions françaises qui sont remarquables. Alors je dis ça notamment pour les lycéens. Si vous voulez aller au-delà, parce que le film, c'est traduit, donc vous allez pouvoir avoir un premier regard pour ceux qui connaissent pas sur les textes de Dylan, en sachant que Dylan, ça reste avant tout un musicien et un poète et un parolier, mais il a fusionné les deux. Il a mis un peu de poésie, d'intellectualisme dans le rock. Et il a créé cette espèce de chose qui fait qu'il est devenu Bob Dylan, que c'est quelqu'un d'unique. Et donc, François, peut-être tu veux parler du film. Jérôme, tu commences. Non, tu veux... Tu vas ? Allez, lance-toi.
Le film, oui, c'est vraiment le tout début de sa période quand il arrive à New York et que tout se cristallise. Il arrive de son Minnesota natal, dans le nord des États-Unis, dans une région près des Grands Lacs, près du Canada. Il vient de lire l'autobiographie de Woody Guthrie, Bound for Glory, qui l'a totalement bouleversé. Il arrive avec une copie du bouquin dans sa poche. poche. Et il n'a qu'une seule obsession quand il débarque à New York en janvier 1961, c'est aller voir Woody Guthrie, rencontrer Woody Guthrie et lui chanter ses chansons. Et après, donc, le film va raconter toute son aventure. Il arrive à New York, il ne connaît personne. C'est un inconnu parfait, complete unknown.
Et tous les films sur Dylan, les plus significatifs, il y en a un qui s'appelle Masqué Anonyme, l'autre c'est donc Un Parfait Inconnu, et il y en a un autre qui s'appelle Je ne suis pas là. Donc ça vous donne aussi le ton du personnage. François ?
Bon alors, Lou, comme vous le savez sans doute, le réalisateur du film, c'est James Mangold. Il est connu pour avoir réalisé le film sur Johnny Cash, Walk the Line. Et dernièrement, il a fait le cinquième volet de la série Indiana Jones. Indiana Jones et le cadran de la destinée. Donc le scénario de ce film est basé sur le livre d'Elijah Wald, qui est paru en 2015 et qui a été traduit sous le titre Dylan Electric. Donc l'auteur du livre a été contacté par le réalisateur, qui lui a acheté les droits d'exploitation. Mais l'auteur a déclaré dans une interview qu'il trouvait ça bizarre qu'on ait besoin de son livre pour écrire le scénario de ce film, vu que les faits étaient bien connus. Mais d'un autre côté, il était très content d'avoir touché une jolie somme pour ça. Donc le titre du film, comme Jérôme vous l'a dit, est extrait d'une chanson de Bob Dylan, le refrain de la chanson Like a Rolling Stone, et qui a été reprise en français par Hugo Frey. Ce film n'est pas une biographie, c'est un biopic, c'est-à-dire que c'est une œuvre cinématographique de fiction, centrée sur la description biographique d'un personnage principal qui a réellement existé. Le film restitue parfaitement les décors et l'ambiance qui régnaient de 1961 à 1965. En fait, il se passe dans trois lieux principaux, New York, plus spécialement Greenwich Village, qui était à l'époque un repère de poètes et de musiciens, l'hôpital où Woody Guthrie se faisait soigner pour une maladie incurable, dans le New Jersey, en face de New York, et Newport, au sud de New York, qui est connu dans la mémoire américaine comme un ancien port de chasse à la baleine, et qui était le lieu d'organisation d'un festival de jazz d'abord, et ensuite du festival de musique folk. Le jeu des acteurs, vous le verrez, il est excellent. Autant pour Timothée Chalamet qui tient le rôle de Bob Dylan que pour ses deux partenaires féminines, Monica Barbaro qui joue John Baez et Ellie Fanning qui tient le rôle de Sylvie Russo. Ça s'appelait en fait dans la réalité Suzy Rotolo. C'était la petite amie de Bob Dylan à l'époque.
Celle qu'on voit sur la pochette de l'album Free Willing. Dans les rues enneigées du village.
Et le quatrième acteur principal qui tient le rôle de Pete Seeger, Edward Norton, est lui aussi très fidèle à la réalité et c'est peut-être le meilleur interprète. Toutes les chansons sont jouées et chantées par les acteurs eux-mêmes. Il n'y a pas de doublage. Donc, en fait, Timothée Chalamet a insisté pour interpréter lui-même les chansons du film et il a fait un travail énorme. Il ne connaissait rien à la musique de Dylan, mais il a appris ses chansons, appris des cours de guitare et d'harmonica. La maison de disques de Dylan lui a donné accès à 12 heures d'enregistrement inédit de Bob Dylan des années 60 à 65. Et Chalamet a réussi à reproduire parfaitement l'accent de Bob Dylan, ses mimiques, sa façon de chanter, sa manière de jouer de la guitare et de l'harmonica. Il faut dire que le film a été initié en 2019, avant le Covid et le confinement. Du coup, Timothée Chalamet a eu beaucoup de temps pour s'imprégner du personnage de Dylan, presque 6 ans. Et donc, comme vous avez commencé à vous en parler, Jérôme, l'histoire racontée par le film, il s'agit des débuts de Bob Dylan à New York, de sa visite à son idole Woody Guthrie, qui était un compositeur et chanteur de folk américain contestataire des années 30 et 40, puis de la reconnaissance de Bob Dylan en chanteur de folk engagé, et enfin de son passage au festival de Newport en 65. Jusque-là, Dylan avait toujours joué seul avec une guitare acoustique, et le fait que le chanteur de folk le plus célèbre des États-Unis se mette à jouer de la musique électrique a causé un scandale comparable au Sacre du printemps de Stravinsky et a révolutionné la musique populaire américaine. Dylan a rencontré le réalisateur plusieurs fois pendant le confinement. Dylan a lu en entier le synopsis et il a même fait mieux car il a joué les répliques de Chalamet à voix haute. Il a changé des phrases du script, il a écrit ses remarques et les a envoyées à Mangold. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans ce film est conforme à la réalité. Dylan a toujours préféré une belle histoire à l'exactitude des faits. J'ai à peu près résumé le film. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire bien sûr le livre de Elijah Wald, ou si vous voulez absolument tout savoir sur Bob Dylan, ma biographie.
juste on vous laisse avec Dylan, vous faites attention à rien, de toute façon vous avez juste à écouter les chansons, vous pouvez enlever tout le film et regarder que les chansons, rien que ça déjà c'est énorme, le reste après c'est ça rajoute encore plus, mais Dylan c'est quelqu'un qui est un grand menteur dans tout ce qu'il fait, enfin tout ce qu'il laisse, tout ce qu'il donne à voir de lui-même, vous allez voir dans le film il en parle, on commence à voir le personnage émerger, et c'est un grand menteur mais il dit tout le temps la vérité, voilà, et si vous avez pigé ça, vous avez le ton du film, merci à tous. Oui.
Alors le film reflète parfaitement l'artiste que semble être Bob Dylan, mystérieux et insaisissable. Il a pourtant été un acteur majeur musical et politique de cette période tourmentée, mais on a vraiment le sentiment qu'il met beaucoup de distance avec les événements qu'il traverse. À l'écran d'ailleurs, c'est un sentiment assez étrange.
Le casting est parfait. Monica Barbaro, en John Baez et Fanning en Sylvie Russo et bien sûr Timothée Chalamet en Dylan. Sa prestation est remarquable et le travail qu'il a fourni pour le rôle est assez hallucinant. Bref, un très bon moment de ciné qui touche toutes les générations, à l'affiche dans votre cinéma préféré.
M'excusera, Harry, je sais que c'est le réveillon et je sais aussi que tu te sens seule, mais de là à ce que tu débarques, que tu me dises que tu m'aimes, emballer, c'est peser, il y a des kilomètres. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Bon, alors comment?
Je ne sais pas, mais en tout cas pas comme ça.
Peut-être comme ça. J'adore que tu aies le nez qui coule quand il fait 22 degrés. J'adore que tu mettes une heure et demie pour commander un sandwich. J'adore la petite ride que tu as là quand tu me regardes comme si j'étais un dingue. J'adore qu'après avoir passé la journée avec toi, j'ai les vêtements tout parfumés par ton odeur. Et j'adore que tu sois la dernière personne à laquelle j'ai envie de parler avant de me mettre au lit.
Bah, on ne vous avait pas dit. Et oui, on passe la Saint-Valentin ensemble cette année et on se retrouve le 14 février à 20h en compagnie de Harry et Sally. Je parle bien évidemment de Quand Harry rencontre Sally, la comédie sentimentale décalée et drôle des années 80.
Bob Reiner nous offre un pitch plutôt simple mais très efficace. Harry et Sally s'entendent comme chien et chat. 10 ans après la fac, ils se découvrent une vraie amitié. La complicité les rapproche à tel point qu'ils finissent par admettre ce que leurs amis savaient déjà. Ils sont faits l'un pour l'autre. On se rappelle tous de la fameuse scène d'orgasme simulé dans un restaurant. On se rappelle également de la très belle alchimie entre Billy Crystal et Meg Ryan ou encore de l'incroyable performance de Carrie Fisher et Bruno Kirby en couple de meilleurs potes un peu timbrés.
Alors si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez et pour les petits aficionados, redécouvrez-le en réédition version restaurée 4K, ça fait toujours plaisir.
Passons au petit récap de nos films à venir ce mois-ci. A commencer par le film multiprimé au dernier festival premier plan, La Pampa. Que tu connais bien Cécile, puisque tu as fait un peu de figuration dans le film.
Eh oui, c'était une chouette première expérience. La Pampa est le premier long-métrage d'Antoine Chevrolier. Il a reçu le prix du public, le prix d'interprétation masculine pour Saïd El Alami et le prix Scania de la diversité, rien que ça. Tu nous pitches le film, Georges ?
Alors, ça va pitcher. Willy et Jojo sont amis d'enfance et ne se quittent jamais. Pour tuer l'ennui, ils s'entraînent à La Pampa, un terrain de motocross. Mais un soir, Willy découvre le secret de Jojo. Le film sort le 5 février et nous vous proposons un ciné-rencontre le 6 février à 20h en présence du réalisateur. On vous attend nombreux et nombreuses.
La vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, c'est ce que nous propose Pablo Larraín dans son nouveau film Maria, interprété par la belle Angelina Jolie. Ça sort le 5 février.
Deux autres films présentés en avant-première lors de la dernière édition de Premier Plan, L'Attachement, réalisé par Karine Tardieu, avec au casting Valeria Bruni-Tedeschi, Pio Marmaille et l'inévitable Raphaël Quenard. Sandra, quinquagénaire farouchement indépendante, s'attache peu à peu à son charmant voisin et ses deux enfants, sortis le 12 février.
A Real Pain de Jesse Eisenberg, qui joue également le rôle principal aux côtés de Kieran Culkin, vous savez, le gars de Succession. Deux cousins au caractère opposé se retrouvent à l'occasion d'un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère. Leur odyssée va prendre une tournure inattendue lorsque les vieilles tensions de ce duo improbable vont refaire surface, à retrouver au cinéma le 26 février.
Et puis le 12 février, le très attendu film de Brady Courbet, The Brutalist. Un des favoris aux Oscars qui a remporté le Lion d'Argent à Venise et 3 Golden Globes, meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur. Un casting d'exception également avec Adrien Brody, Felicity Jones et Guy Pearce.
Vous allez suivre sur 30 ans la vie de Laszlo Toth, un architecte juif d'origine hongroise rescapé de la Shoah. Il immigre avec sa femme Erzabeth après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son rêve américain.
Alors très franchement, ça a été une petite claque. C'est beau, c'est brillant, c'est ambitieux. Vous allez plonger dans une fresque de 3h35, alors pas d'inquiétude, il y a un petit entracte qui est prévu. Brady Courbet, le réalisateur, scrute ici les travers d'une Amérique en pleine reconstruction et convoque les plus grands films hollywoodiens. On pense à Il était une fois en Amérique de Sergio Leone ou encore plus récemment There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. The Brutalist est une œuvre sans concession, un film qui interroge et qui trouble. Le rythme, la mise en scène, les dialogues, le scénario ciselé font de chaque scène une expérience de cinéma inoubliable. Alors allez voir The Brutalist au ciné à partir du 12 février. Et puis, dernier conseil, ne lisez rien avant sur le film, cela pourrait peut-être vous gâcher un tout petit peu l'expérience.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Bien sûr, vous retrouverez notre programmation et tous nos événements sur www.les400coups.org et sur nos réseaux sociaux.
Alors, d'ici là, vous savez ce que vous avez à faire. Courez dans les salles. On se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Angers, 103 FM. Salut Cécile.
À bientôt, Georges.
Les 400 coups.
Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.